Une école pour la vie, l'émission de l'enseignement catholique d'Eure-et-Loire, animée aujourd'hui par Corinne Vivier, Anne-Sophie Chobot et votre serviteur Jean Brouillou. Pour notre dernière émission de l'année scolaire, un sommaire, Corinne.
Alors, pour commencer, un sujet sur des animatrices en pastorale qui se sont rendues au séminaire pour leur dernière rencontre de l'année.
Et puis, après ?
Alors, deuxième sujet, c'est la présentation de l'AREC 28 avec Mademoiselle Divé.
Alors, vous vous êtes rendues toutes les deux, je crois, à Orléans, au séminaire ?
Tout à fait. Hein. C'était donc notre dernière rencontre des animateurs en pastorale scolaire. Vous savez que nous allons avoir des ordinations. Hein. Nicolas Bousset qui a été ordonné diacre au début juin. Et puis Jean-Baptiste Popo qui va être ordonné le 26 juin à la cathédrale de Chartres. Et puis nous avons la chance d'avoir des séminaristes sur notre diocèse. Et donc le service des vocations représenté par Isabelle Duriot nous avait évoqué l'idée de réfléchir ensemble sur comment tous les acteurs en pastoral qui s'occupent des jeunes osent parler des vocations. Eh bien, ça a été pour nous l'occasion de proposer cette rencontre au séminaire interdiocésain d'Orléans le 15 juin dernier. Voilà. Et donc, c'était aussi enseignement catholique, aumônerie aussi enseignement public. Donc, c'était un temps un peu particulier.
L'occasion également de rencontrer donc ces jeunes séminaristes et puis de rencontrer également le père Michalet, qui est le recteur, le responsable du séminaire, qui a répondu à nos questions.
Tout à fait. Alors, on a commencé par une visite avec Jean-Baptiste Popo, hein, une visite physique du séminaire. Et puis, ensuite, un repas où on a été très bien accueillis. Et puis, le recteur du séminaire, le père Michalet, qui nous a présenté les objectifs du séminaire. Et puis, une réponse aux questions, enfin un échange intéressant.
Alors, très intéressant puisque il nous a effectivement parlé de l'importance de la formation humaine de ces jeunes séminaristes qui vont donc devenir des pasteurs, qui sont à la fois des guides et puis qui vont conduire les brebis, c'est-à-dire nous aider, nous guider.
Et puis tout de suite nous allons retrouver Isabelle Duriot qui va nous parler un petit peu de l'objectif de notre rencontre.
Bien donc, un service des vocations, je ne sais pas si ça veut dire beaucoup si ça a beaucoup de signification pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire, un service des vocations ? Alors, voilà.
Alors, pour moi, dans mon vécu quotidien, au collège Sainte-Cécile de Châteaudun, ça veut dire un service qui est très loin de nos préoccupations quotidiennes. Et qui surtout fait plus appel à notre prêtre référent, qui, quand il y a des demandes de ce point de vue-là, répond immédiatement. Après votre discours, moi, j'avais absolument pas pensé, avant que vous nous en parliez, faire appel à ce service-là au niveau des animations en pastorale. Je vais y penser dorénavant. Voilà.
Alors, je crois qu'il faut ne pas limiter le mot vocation, ce que l'on a souvent tendance à faire, à la vocation presbytérale. Je crois que c'est déjà très important que les jeunes aient la notion de culture vocationnelle. C'est-à-dire qu'on leur dise que toute vie est vocation. Qu'est-ce que ça veut dire toute vie est vocation ? C'est à quoi le Seigneur m'appelle dans ma vie. Ça peut être m'appeler dans le mariage, ça peut être m'appeler dans la vie religieuse, et ça peut être m'appeler dans la vie de prêtre. Voilà. Donc, je crois qu'il faut vraiment leur dire qu'ils sont appelés à quelque chose. C'est vraiment important qu'ils se sachent appelés. Vocation, c'est appeler, hein, le mot vocation. Voilà. Donc, alors souvent, il ne faut pas se faire d'illusions. Un jeune qui se pose quelques questions sur son avenir ne va pas appeler le service diocésain. Hein. Il va passer par des personnes, forcément. Hein. Ça va être soit un prêtre, soit un chef scout, soit une cheftaine, soit un animateur d'aumônerie. Donc vous qui êtes sur le terrain, c'est vous qui êtes les premiers à rencontrer des jeunes qui commencent à vous dire ben, je me pose quelques questions dans mon orientation scolaire, est-ce que je pars pour de grandes études ou est-ce que je. Est-ce que, voilà. Donc je crois qu'il faut déjà être. Les entendre, ces questions, mais même pour des tout petits. Il ne faut jamais mépriser un petit garçon de 6 ans ou de 8 ans parce qu'il est servant d'hôtel qui se dit tiens, ben, moi je me verrais bien prête. Oui, il ne faut pas le voir prête, mais il faut l'entendre. Voilà. Donc je crois que même les rôles des mamans, les rôles des animateurs, c'est vraiment déjà d'accueillir cette parole-là ou ce questionnement-là. C'est jamais le service de vocation qui vient en premier rang, ça c'est évident.
Isabelle Duriau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes du SDV pour le diocèse d'Eure-et-Loire. Est-ce que vous pouvez vous présenter, vous raconter brièvement votre parcours professionnel dans l'enseignement catholique?
Voilà, j'ai été pendant un certain nombre d'années prof de maths à l'Institution Notre-Dame, après l'avoir été à Paris. Et quand j'ai arrêté ce travail, je me suis occupée de différentes choses, en particulier de l'aumônerie du lycée Notre-Dame.
Donc déjà très engagée dans le milieu. Là, maintenant, vous êtes membre du SDV. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu les missions de ce service au niveau du diocèse et, je dirais, votre objectif?
Alors, au niveau du diocèse, notre première tâche est de sensibiliser les familles et les communautés chrétiennes à prier pour les vocations. Mais notre sens des vocations est assez large, puisqu'il s'agit... Alors, on peut dire que toute vie est vocation. Il y a bien sûr la vocation au mariage, mais le service des vocations s'adresse plutôt aux vocations qu'on appelle spécifiques, c'est-à-dire les vocations religieuses et presbytérales.
Et alors justement, comment vous arrivez à susciter, à toucher les jeunes?
Alors directement, c'est un petit peu difficile parce qu'on n'est pas sur le terrain. Ce que l'on propose comme activité, c'est au niveau des paroisses, au niveau des mouvements de jeunes. On leur demande de nous contacter un petit peu dès qu'ils ont besoin dans leur pédagogie. D'aide pour parler des vocations, parce que c'est pas un thème forcément facile. Aujourd'hui, je suis venue rencontrer au séminaire d'Orléans toutes les APS de l'enseignement catholique et de l'enseignement public pour voir comment, puisqu'on s'appelle service, comment notre service des vocations peut les aider à porter là où elles sont cette question de la vocation.
Alors justement, vous intervenez auprès des aumôneries du public, auprès des services, on va dire, des APS, hein, pastoral, l'enseignement catholique. Vous avez donc des outils, vous faites des propositions de projets.
Alors pour l'instant, ça ne s'est pas encore fait beaucoup. Moi, je ne suis jamais intervenue directement auprès des personnes, mais auprès de leurs responsables, Corinne. Ce que l'on veut, c'est leur dire que le service national propose à vraiment une boîte à outils très très large, très variée, suivant les âges, suivant le temps dont on veut disposer pour soit présenter un film, soit organiser un jeu, soit faire voilà. Donc c'est pour dire qu'il ça sert à rien de refaire le monde. Il y a des outils qui ne demandent qu'à être utilisés et donc voilà, on est un petit peu le relais entre ce qui est proposé par le service national et ce qui peut se faire sur les différents lieux.
Alors aujourd'hui, nous sommes donc à Orléans, au séminaire. Nous avons eu le témoignage donc, de Jean-Baptiste Popo, qui sera bientôt ordonné prêtre à la cathédrale de Chartres. Nous avons également vu Nicolas Bossé, qui est donc également séminariste et qui vient d'être nommé diacre. Des témoignages importants, puisque ce midi, ils ont pu effectivement nous faire passer un message. Et c'est d'autant plus important que vous êtes aussi ici.
Voilà. Alors, le service des vocations a en effet en particulier l'intention, à partir de l'année prochaine, de créer ce qu'on appelle un petit vivier de personnes dans lesquelles on pourra piocher, faire appel pour que c'est des personnes locales, hein, ça ne sera pas forcément des personnes connues, mais qui vivent leur vocation de prêtre, de religieux, de... Enfin, religieux, il n'y en a pas beaucoup, mais religieuses, voilà. Et on va donc demander dans les différentes communautés qui existent de nous donner quelques listes pour que leurs responsables puissent faire appel pour que les jeunes rencontrent ces personnes, parce qu'on pense que le témoignage de quelqu'un en chair et en os souvent plus de poids que tout ce qu'on peut dire sur la vocation.
Et un témoignage avec des gens qui ont donc une mission sur le terrain, une mission de proximité et pas forcément des grandes images, on va dire, un petit peu emblématiques, mais qui peuvent paraître distantes,
voilà,
et
voilà,
inabordables aux jeunes.
Voilà, je dis des gens qui ont les mains dans la pâte et qui vivent au quotidien leur vocation là où ils sont, sans faire d'étincelles spécialement.
Merci beaucoup Isabelle.
Je vous en prie.
Merci. Nous sommes au séminaire d'Orléans. Je suis donc avec Jean-Baptiste.
Bonjour.
Bonjour. Et avec...
Anne-Marie Ludo.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, la question que je vais vous poser tous les deux, vous êtes tous les deux séminaristes, mais vous n'êtes pas sur la même
année. La même année.
Voilà. Jean-Baptiste, tu peux nous raconter un petit peu ton parcours. Il y a combien de temps que tu es rentré au séminaire d'Orléans?
Je suis rentré au séminaire d'Orléans en 2005. Non, 2008 d'ailleurs. 2008, après une formation universitaire en un DUT carrière sociale à Lille. Pour ma part, la question s'est posée très tôt de la vocation, puisque j'avais 7 ans quand j'ai cru que le Seigneur m'appelait.
Donc il y a eu un long cheminement personnel,
exactement,
spirituel.
Et qui a eu besoin d'être accompagné, parce que tout seul, on ne s'en sort pas. Dans l'appel de Samuel, il y a un moment donné où il dit, on entend Dieu qui dit Samuel, Samuel, et deux fois il va voir Élie et lui dit tu m'as appelé maître, tu m'as appelé, et Élie lui dit non, retourne te coucher. Et la troisième fois, Élie, qui comprend que c'est le Seigneur qui l'appelle, dit quand tu entendras cet appel, tu diras parle, ton serviteur écoute. Et c'est comme ça que la relation entre Samuel et Dieu peut se faire. Et je crois que l'accompagnement dans une vocation, c'est la même chose. On en peut entendre des choses, mais si on n'est pas éclairé par nos aînés dans la foi, par le service des vocations, pour moi, de Chartres, qui m'a aidé très tôt, on a du mal à discerner ce que le Seigneur nous, enfin, là où le Seigneur nous attend, quoi, et les questions qu'il faut se poser.
Alors toi, justement, dans ton cheminement, tu as été accompagné par le service, le SDV. Tu as été accompagné aussi, j'imagine, par l'aumônerie.
Oui, alors... Ça, c'est l'avantage de l'Église et de vivre dans plusieurs groupes aussi. Donc, il y avait l'aumônerie des collèges. J'appartenais aussi au scout, au SUF de Cherizy. Voilà. Et donc, en même temps qu'on développe une relation particulière à Dieu, on développe des amitiés, on développe une dimension communautaire avec ceux avec qui on chemine. Et c'est pour ça que la vocation, elle doit jamais être... Enfin, la question de la vocation, elle doit jamais être isolée du vivre ensemble avec les autres. Et c'est des questions qui se portent à plusieurs.
Bien sûr.
C'est d'ailleurs ce qu'on fait au séminaire. C'est le but de...
Alors justement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, on va dire, comment se déroulent vos années d'études aussi sur ce séminaire?
Ben, je vais laisser à Marildo le premier cycle. Le premier cycle, puisqu'il est en première année ici.
Voilà. Alors tu peux te présenter, parce que toi, tu viens pas de Ré-Loire.
Eh bien, moi, je viens du Brésil. C'est ma troisième année en France. Eh bien, je suis arrivé en France avec la communauté du Bon Pasteur. Mais au bout d'une année, je me suis rendu compte que ce n'était pas ma place. Donc, je suis parti, je suis entré dans les diocèses de Chartres. Et là, je suis en premier cycle, en première année. Et en gros, ce qu'on fait en première année et au premier cycle du séminaire, c'est que de la philosophie. Donc, 80% du temps, on fait que de la philosophie, et les autres 20%, on fait des évangiles synoptiques et un peu de théologie morale. Voilà, c'est un peu la vie du premier cycle. Dans la formation intellectuelle, dans la formation pastorale, nous avons des temps avec des jeunes d'aumônerie ou catéchèse, peu importe, sur Orléans. Et nous avons donc 2 heures par semaine qu'on part et on va rencontrer ces gens-là. Aussi, on peut avoir, mais ce n'est pas obligé, avoir une paroisse d'accueil pour qu'on puisse découvrir un peu la vie en paroisse avec les personnes au travail, avec les laïcs.
Et alors, après ce premier cycle, vous préparez le baccalauréat en droit canon, c'est bien ça?
Le baccalauréat canonique,
canonique,
qui est un examen qui sanctionne en fait justement les 2 années de philosophie et les 4 années de théologie qui forment notre séminaire. Pour savoir à peu près, sur une question qui regroupe les différentes disciplines qu'on a abordées, quel est notre point de vue et quel est ce qu'on a acquis et quel est notre point de vue sur cette question-là.
Alors justement, au niveau de l'accompagnement de ton cheminement, Jean-Baptiste, il y a eu, je pense, aussi un prêtre, un référent qui a eu, on va dire, aussi un élément clé aussi dans ton cheminement, non?
On peut peut-être... Je pense que quand on se pose la question, de devenir prêtre ou non, on est un peu attiré de toute façon par, par des figures. Moi, la première figure qui m'a attiré, c'était le père Ferdinand, qui était tout petit, qui avait des grandes oreilles, et qui disait devant toute l'assemblée, qui disait son homélie, et tout le monde se taisait, il avait des super pouvoirs, il transformait le pain en corps du Christ, et le vin en sang, enfin voilà, c'était ce qui m'a attiré chez le prêtre au début. C'était peut-être un peu orgueilleux, ça a changé un petit peu avec le temps, et évidemment, les différentes figures auxquelles on s'attache façonnent aussi notre manière de répondre à l'appel. Je pense donc à Laurent Persereau qui m'a accueilli au service des vocations, et aux différents prêtres aussi, les différents aumôniers scouts qu'on a pu avoir.
Partager des temps forts aussi. Ouais.
Exactement. Et puis aussi les prêtres qui sont là au moment un peu déterminant. Je pense au bac, j'avais laissé tomber la question, je m'étais dit c'est bon, c'est réglé. Voilà. Et puis j'ai reçu. C'était encore Laurent Persereau, une petite lettre qui arrivait chez mes parents en disant « Dis donc, t'en es où de ton cheminement ?» Et ça, je me suis aperçu grâce à ce petit pic-là que je n'avais pas réglé la question, que je l'avais simplement évacué. Quoi.
Encore du discernement. Alors.
Exactement. Alors ça fait peur et en même temps, quand on y est, on est très heureux.
Il faut souvent se remettre en question aussi.
Oui, c'est le principe. Mais je pense que ça ne tient pas simplement à la vocation sacerdotale. Je pense que c'est propre... aussi au cheminement chrétien de se dire le Seigneur veut qu'on soit heureux et veut qu'on soit heureux ensemble, donc on a à se repositionner en permanence.
Alors on va expliquer aussi que tu vas bientôt être ordonné.
C'est cela, le 26 juin, dimanche, à la cathédrale de Chartres, à 15h30. Voilà. Je réclame des prières.
Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Merci à tous les deux.
Merci à vous.
Merci.
Nous sommes heureux d'accueillir pour notre dernière émission Mademoiselle Divet. Mademoiselle Divet, bonjour.
Bonjour.
Alors, Mademoiselle Divet, vous avez un rôle très particulier sur l'enseignement catholique et vous allez tout de suite nous dire quel est ce rôle.
Voilà, donc je suis Françoise Divet, retraitée depuis maintenant presque 10 ans, et j'ai toujours des engagements dans l'enseignement catholique. Et le dernier engagement a été de créer l'amicale des retraités de l'enseignement catholique, puisque il n'y avait rien dans ce diocèse pour les retraités.
Donc cette amicale s'appelle
AREC 28, amicale des retraités de l'enseignement catholique de Eure-et-Loir.
Alors, la genèse de ce projet?
Eh bien, c'était au mois de juin l'année dernière, lorsque M. Sautreau, directeur diocésain, soucieux des retraités et ayant pris conscience qu'il n'y avait rien dans ce diocèse pour les retraités, m'a demandé et m'a fait part de ce projet et m'a demandé si j'accepterais éventuellement de lancer ce projet pour l'Eure-et-Loir. C'est vrai que c'est un sujet qui m'intéressait parce que effectivement dans l'enseignement catholique rien n'était fait quand les gens quittaient l'enseignement catholique auquel ils avaient consacré beaucoup d'années. Voilà comment est né le projet.
Donc un début l'année dernière.
Début l'année dernière, donc j'avais dit à M. Sautreau, oui, mais pas au mois de juin, on reverra ça au mois de septembre, puisqu'il fallait tout initier et que je ne savais pas très bien comment on allait s'y prendre.
Alors vous avez recontacté
donc
les anciens.
Donc on a essayé de retrouver des fichiers, donc l'enseignement catholique nous a beaucoup aidé au niveau de l'enseignement primaire, parce qu'ils avaient toutes les archives. Ça a été beaucoup plus difficile au niveau du secondaire. Et l'objectif de l'association est surtout de ne pas laisser de côté les personnels OGEC. C'est vraiment une amicale qui est ouverte aussi bien aux enseignants qu'aux personnels administratifs et de service.
Alors OGEC, hein, c'est
l'organisme de gestion. Donc des gens qui étaient salariés de chaque établissement, et la direction de Cézanne ne connaît pas ces personnes-là, quoi. Donc, on a lancé des mails à toutes les écoles, tous les établissements qui ont plus ou moins joué le jeu. Mais petit à petit, par les relations des uns et des autres, le fichier s'est constitué. Et on a réussi à contacter environ 300 personnes dès la première expédition.
Alors, depuis janvier, vous avez constitué
donc,
cette amicale.
Donc, voilà, on a vu que les gens répondaient, les gens semblaient intéressés. Et donc, après, il fallait appliquer la loi. Donc, il fallait faire une assemblée générale constitutive que l'on a faite le 19 janvier. Et on a eu le grand bonheur de voir environ 80-90 personnes venir, qui ont aussitôt adhéré à l'association. Donc, on était assez confiants en disant que ce projet correspondait à une attente des retraités. Et nous sommes à ce jour 65 adhérents. Donc, pour 6 mois d'existence, mm-hmm. C'est quand même encourageant.
Alors, après ce lancement prometteur hein, de début janvier, est-ce que vous pouvez nous dire si effectivement ce type d'association, ce type de projet existe aussi sur les autres diocèses?
Oui, alors effectivement, moi pourtant ancienne de l'enseignement catholique, je n'avais jamais entendu parler de cela en Eure-et-Loire, et j'avais eu à l'occasion d'une rencontre, compris que ça existait. Effectivement, ça existe dans, disons, une douzaine, quinzaine de diocèses. Et il y a une fédération, la FNAREC, hein, à laquelle nous venons d'adhérer. Et j'irai au mois de septembre à la première assemblée générale de la FNAREC à Nantes pour représenter l'Eure-et-Loire. Mais c'est un mouvement qui se développe. On a été 2 ou 3 diocèses, je crois, dernièrement, à créer notre AREC.
Donc vous avez des projets quand vous proposez des rencontres, vous avez proposé
alors
des rencontres.
Alors donc assemblée générale constitutive, après évidemment élection d'un bureau. Donc je suis présidente. Nous avons une trésorière, une ancienne secrétaire du collège Jeanne d'Arc. Et puis nous avons essayé de mettre quelques idées sur le papier. Donc on a fait une petite enquête auprès des retraités pour leur demander ce qu'ils souhaiteraient. Donc, on tourne vraiment au niveau de loisirs, détente, culture, sorties, voilà. Et pour bien montrer que l'on existait, on a, dès le mois de mai, proposé une première action et nous sommes allés à Giverny. C'était la première sortie. Bon, peu de monde, parce qu'on vient de se rendre compte que les retraités sont des gens très occupés et qu'à partir du mois de mai, plus personne n'est libre. Voilà. Et puis nous avons un grand projet pour le 27 novembre, le dimanche 27 novembre, puisque nous allons organiser le spectacle de Noël au Puy du Fou. Donc là, les places sont réservées, tout est organisé, et on va lancer des invitations officielles au mois de septembre.
En ce qui concerne le mode de communication, justement, pour contacter vos adhérents, est-ce que vous allez mettre en place une newsletter ou...
Alors, bon, on se heurte, on découvre cela, c'est que l'on a quand même affaire à des gens qui ne sont pas très familiarisés à Internet.
Très bien.
Donc, c'est un petit peu un souci parce qu'on se rend compte que l'on aura toujours beaucoup de frais d'affranchissement parce que ce n'est pas une génération qui...
Qui est forcément très connectée.
Voilà. Donc ça, c'est un peu une découverte. Donc on va communiquer, par mail, courrier. Par lettre et tout ça, mais on aura toujours, on peut dire, la moitié de nos adhérents actuellement qui n'ont pas Internet.
Et quel lien vous avez avec les établissements d'enseignement catholique de l'Eure-et-Loire?
Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir développer. Nous, notre idée cette année, là, dans les jours à venir, on va déjà adresser une lettre à tous les retraités de cette année pour leur dire que la REC existe. le rappeler aussi au chef d'établissement. Et on envisage l'année prochaine de faire une petite affiche qui sera systématiquement dans tous les établissements pour que petit à petit, tout le diocèse connaissent la REC et sachent qu'ils peuvent orienter un retraité vers nous quand le moment arrive.
Est-ce que dans l'avenir, vous pensez qu'il pourrait y avoir des actions dans les établissements ?
Alors, ça a été demandé dans la lettre que l'on a faite aux adhérents, et c'est aussi dans les statuts de la REC, c'est de toujours rester en lien avec l'institution et éventuellement de proposer nos services, ce que l'on peut faire, toujours en lien avec l'établissement. Donc, on a déjà demandé si des personnes accepteraient un encadrement, un petit remplacement pour rendre service, une tâche administrative. Et on a déjà 6 personnes qui ont dit oui. Mais ça fait partie vraiment du rôle de la REC, c'est de voir si des retraités veulent bien encore donner un petit coup de main à l'enseignement catholique.
Quoi. Oui, c'est vraiment aussi une action de solidarité.
Tout à fait. Et puis, on a un souci, mais ça, il va falloir que l'on réfléchisse. On voudrait avoir aussi une action vers vraiment les retraités malades qui viennent adhérer à la REC, mais que l'on ne verra jamais. Donc, on voudrait avoir une petite action, une ou deux fois dans l'année, les rencontrer, rendre visite, voilà. Parce que sinon, ces retraités, on ne les verra jamais, quoi.
Oui, ils ont des soucis pour se déplacer.
Voilà, c'est ça, des personnes vraiment âgées, mais qui sont restées très fidèles à l'enseignement catholique et qui, dès qu'elles ont appris la création de cette amicale, ont adhéré spontanément, quoi. Donc, il va falloir aussi que l'on essaie d'étoffer un petit peu le bureau et le conseil d'administration, puisque là, il n'y avait pas beaucoup de volontaires. Donc, on démarre cette année, nous sommes 7. Et on se rend compte rapidement que c'est juste, quoi. Si on veut faire un petit peu des sous-groupes et des actions un petit peu plus variées, quoi.
Alors, quand on se rencontre entre anciens enseignants ou personnels de l'enseignement catholique, de quoi parle-t-on ?
De l'enseignement catholique, voyons. Non, mais ça a été... c'est vrai que la première rencontre au mois de janvier... on sentait vraiment les gens heureux de se retrouver. Et évidemment, ils évoquaient des souvenirs.
Et est-ce que vous avez des échanges aussi sur la vision que vous avez de l'enseignement catholique aujourd'hui ?
Alors, ce que l'on a essayé de faire, et ce que l'on fera systématiquement, là, j'ai revu M. Sautreau cette semaine, dès que l'on...
Excusez-moi, on rappelle que M. Sautreau, c'est le directeur
de Césin. Voilà, directeur de Césin. Quand on se rencontrera, il y aura toujours une intervention du directeur de Césin pour resituer l'enseignement catholique actuel. Parce que nous, les anciens, il s'est passé beaucoup de choses, il se passe toujours beaucoup de choses dans l'enseignement catholique. Et les gens sont heureux de le savoir et de voir que cet enseignement catholique est bien vivant dans le diocèse actuellement, quoi. Donc, il y aura toujours un lien avec l'enseignement catholique.
On va peut-être rappeler, par contre, vos coordonnées. Si certains enseignants qui nous écoutent veulent vous contacter.
Tout à fait. Donc, actuellement, nous sommes toujours directement en lien avec la direction diocésaine de l'enseignement catholique. Et pour le moment, le plus simple, c'est de prendre contact avec le secrétariat de l'enseignement catholique.
Alors, un numéro de téléphone, c'est le 02 37 88 33 20, ou bien une adresse mail, secretariat@ec28.fr.
Et c'est donc à la visitation avenue d'Aligre à Chartres.
Voilà, tout à fait. Ce que les gens ne savaient pas, parce que la première réunion, nous avions mis la visitation, mais les anciens ne connaissaient pas.
Ce sont pour eux de nouveaux locaux.
Mademoiselle Divet, merci beaucoup pour cet investissement qui ne va pas vous laisser au repos. Une retraite très active. Et on vous souhaite un bel été.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup et puis bonne journée.
Merci.
Alors, c'est la fin de notre émission et la fin des émissions de cette année. Il est le moment de nous dire au revoir et de vous souhaiter des bonnes vacances.
Eh bien, bonnes vacances à tous, avec une pensée pour tous les collégiens, écoliers, lycéens qui partiront dans les différents endroits de France. Alors, je pense à l'école de prière, Coralie au Château d'Evaux. Je pense au pèlerinage de Lourdes à la fin de l'année. Et puis, bien sûr, au JMJ du 18 au 2 août.
Puis un grand merci à Jean qui réalise toute la partie technique de ces émissions.